France Bleu RCFM.
France Bleu.
Yeah.
Hal.
Hal qui?
Avant tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM et dans Toc Toc. Ce soir, nous consacrons notre émission à un festival, un très beau festival qui célèbre sa 20e édition cette année au Palais des Congrès à Ajaccio, le festival Passion Cinéma. C'est jusqu'au 17 mars et à partir de demain, donc le 14. Bonsoir Jean-Michel Fratici.
Bonsoir Marie Bonzini.
C'est vrai, c'est toujours étrange, hein.
C'est curieux.
Oui, hein. Qu'on s'appelle par notre nom de famille.
Mais non, alors comme d'habitude, on s'appelle chérie.
Jean-Mi et Mama, normalement, et Mama et Jean-Mi.
Voilà, oui.
Allez, dans un instant, nous allons recevoir l'une des chevilles ouvrières de ce festival. Et c'est qu'une fois par semaine pour vous. Notez-le. Bonsoir, qui est là?
Bonsoir, Marie.
Vous êtes?
Je suis Xavier.
Xavier Affre est avec nous.
Est-ce que vous pouvez prouver votre identité?
Ah, ça sera difficile.
Avec sa voix, évidemment, on le reconnaît.
Bonsoir Xavier.
Quel plaisir de vous avoir au micro d'RCFM. C'est une maison que vous connaissez bien, puisque vous avez, durant quelques années, auprès notamment de Joël Aurabonne, et puis à mes côtés aussi, eh oui, ne l'oublions pas, parler de cinéma comme vous allez le faire ce soir, Xavier. Et puis on vous retrouve sur France 3 Corse via Stella pour celles et ceux qui vous connaissent, ou alors en presse écrite, puisque vous n'avez jamais cessé de parler de cinéma finalement depuis toutes ces années.
C'est vrai, peut-être trop d'ailleurs, peut-être ça fatigue un petit peu les gens.
Mais non, puisqu'il y a également les réseaux sociaux maintenant pour vous exprimer, et on est ravis de retrouver vos chroniques, vos impressions et vos analyses. 20 ans, je le disais, 20e édition du festival Passion Cinéma. Et vous nous prévenez que la fête sera encore plus folle dans quelques temps, c'est ça?
Mars, c'est un petit peu une espèce d'avant-bouche pour la grande célébration au mois d'octobre, parce qu'en fait, les 20 ans de l'association, c'est vraiment au mois d'octobre.
D'accord. Comment vous rejoignez cette association? Comment ça s'est fait, cette histoire-là?
Alors, c'était en 2006, et c'est vrai que je n'avais pas entendu parler de l'association, c'est de manière un peu étonnante quand même, parce que ça existait depuis déjà 6-7 ans.
Ouais.
Et je suis allé en fait au Bonaparte, j'ai vu un programme, je suis allé au Bonaparte, puisqu'à l'époque c'était des projections, c'était pas un festival comme on fait aujourd'hui, mais c'était des semaines de cinéma dans l'année, et je suis allé voir des films, donc c'était au cinéma Bonaparte, à Ajaccio, et je suis allé rencontrer Jeanne-Paul de Rocazer, et puis je lui ai proposé après éventuellement de participer à l'association.
Mais au départ, c'était pour donner un coup de main comme bénévole,
oui,
comme passionné de cinéma.
Ah oui, c'était vraiment, j'avais envie un petit peu de m'investir dans une association, ça tombait bien, puis c'était le cinéma, et je trouvais qu'en plus la programmation était de qualité déjà, donc ça me convenait tout à fait.
Alors en 2015, vous obtenez votre CAPES de professeur d'histoire et géographie, puisque vous êtes enseignant, nous ne l'avons pas dit.
Ouais, vous savez tout. Hein.
Et passionné de cinéma, on s'est un peu
fréquenté. Elle a des dossiers sur tout le monde, c'est impressionnant.
Non mais on s'est un peu fréquenté, on a travaillé ensemble,
vrai,
tout de même.
Vrai.
Et je me disais, en fait, c'est quoi le lien entre les deux? C'est que vous aimez, depuis que vous êtes tout petit, qu'on vous raconte des histoires, Xavier.
Ah peut-être, non. La passion du cinéma est venue au lycée. Voilà, pour être honnête,
professeur?
Non, j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui mon meilleur ami et qui m'a un petit peu initié au cinéma. Et on allait au cinéma au lycée ensemble régulièrement, et sans sécher évidemment les cours. Et
c'est le prof qui reprend le dessus.
Voilà, c'est important, bien sûr.
C'est ce qu'il veut faire croire à ses élèves, en fait.
et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment découvert pas mal de choses. Il y avait beaucoup de choses à découvrir. Et puis, ma deuxième passion, c'était l'histoire. Donc ça a toujours été un peu le cas, ça, pour le coup, par contre.
Mais avant cette rencontre avec votre meilleur ami, le cinéma, c'était assez anecdotique dans votre vie?
Non, c'était pas terrible. Hein. Je regardais avec mes parents la télé. Oui, j'aimais bien certaines choses, mais c'est vrai que je me serais jamais...
aventuré
sur certains terrains qui me paraissaient un peu glissants à l'époque. Mais là, du coup, maintenant, moins.
C'était quoi, cette époque-là, vous vous souvenez?
De ce que je regardais?
Oui.
Bon, je regardais les classiques. Hein,
Grand les premiers chocs.
De Funès. Ah, le premier choc, je voulais dire, Kubrick. Le premier vraiment choc, c'est Orange Mécanique.
Mmh. Voilà.
Ça, ouais, c'est sûr que c'est un choc pour tout le monde, ça, de toute façon, Orange Mécanique.
Moi, je suis sortie de la salle, figurez-vous. Je vous l'avais raconté, Xavier, à l'époque.
Oui, oui.
Je sais pas, non, mais je crois pas. Mais j'ai été tellement secouée, non, mais sincèrement, je me suis sentie mal. Je suis sortie de la salle, donc ça a été un choc d'une manière.
Oui, oui, bien sûr.
Peut-être différente, pas.
Mais c'est compréhensible. Ouais, non, ouais. C'est compréhensible parce que c'est vrai que c'est un film qui est alors. Avec le recul maintenant, c'est pas celui que je préfère hein, de Kubrick, mais ça reste quelque chose d'assez éprouvant. Même si je me rappelle, c'était quelque chose qui m'avait un peu éprouvé quand même, pour le coup.
Ce sont des souvenirs forts. Il y a aussi les premiers souvenirs au cinéma où la salle est tellement bruyante. Je me souviens par exemple de toute la saga des Rocky. Il y avait tellement de bruit dans la salle qu'on n'entendait pas les dialogues du film. Et ne faites
pourquoi
pas de...
Voilà,
j'allais vous dire, ne faites voilà. pas de...
Non, mais j'ai pas de... vous la pillé, celle-là. Ouais. Les dialogues d'un Rocky, c'est...
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il y a des dialogues. Arrêtez tous les deux.
Ça dépend. Hein.
Tout ça pour dire que la sortie au cinéma est déjà une aventure. Avant même de savoir quel film on va voir, donc il faut inviter les gens à absolument aller au cinéma et notamment participer au festival. Comment fait-on si on a envie de tout voir? Est-ce qu'il y a des passes? Est-ce qu'il y a des réductions? Est-ce qu'il y a...
Alors, on fait pas de passe, nous. C'est peut-être une spécificité. Par contre, il y a une carte d'abonnement et de soutien pour l'association. Et il est possible, évidemment, en tout cas, de réserver, de venir dès le jeudi matin et de réserver déjà ses places pour l'ensemble des 4 jours.
Ouais.
Alors, c'est vrai que le programme est chargé. Il y a 4 jours et je crois qu'il y a à part un ou deux films qui repassent.
Mais c'est 22 films. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis surtout, très, très peu ne repassent. Parce qu'on a tellement envie de montrer plein de choses finalement qu'on a du mal parfois à les rediffuser. Et puis surtout, les avant-premières, vous savez, on n'a pas le droit en fait de les diffuser deux fois. Donc voilà.
Oui, ce qui est assez logique.
Et oui. Voilà.
Tout de même. Alors, des avant-premières.
Ça ferait deux avant-premières, mais
il est absolument impossible de tout voir.
C'est difficile. À moins de prendre des jours de congé entre le 14 et le 17 mars.
Voilà, pourquoi
c'est,
pas
C'est
pas
possible. Pensé à ça, oui.
Non, mais certaines personnes le font hein, pour des festivals. Donc là, ça démarre demain et c'est jusqu'au 17 mars. Il y aura une soirée également à Marignane.
Oui, le dimanche, c'est pas tout à fait une soirée, c'est l'après-midi, le dimanche après-midi.
Donc une matinée en fait.
Voilà, l'après-midi, oui, effectivement. Oui, vous voulez en fait projeter deux films de montagne, donc ils seront projetés au cinéma. Oui, là, ça aussi c'est une petite spécificité puisque il faut un peu bouger. Il y a de l'Ellipse, il y a du Palais des Congrès, il y a Marignane. Voilà, on essaye un peu de décentraliser. Donc ça c'est quelque chose, je trouve assez intéressant aussi.
Palais des Congrès d'Ajaccio, l'Ellipse et Marignane. Pour les films montagne, puisque vous vous souvenez, Festival Passion Cinéma et Soirée Montagne.
Oui.
Et la montagne sera toujours présente, notamment le samedi.
C'est ça. Je pensais que vous alliez dire la montagne, ça nous gagne. Mais ça, c'est un vieux slogan.
On n'a pas osé.
Je vous promets que je le sortirai dans l'émission. Je ne sais pas quand, voilà. Mais je ne sais pas comment, mais je le ferai pour vous.
Moi, je préfère la Balagne, ça vous gagne. Mais bon, chacun son truc.
Mais on peut faire la Balagne en montagne.
Moi aussi, oui, on a de très belles montagnes.
Mais quelle belle rencontre entre vous deux. Je vais m'éclater pendant une heure. Non, sérieusement, samedi, avec Jean-Michel Asselin, qui est toujours là pour animer cette fameuse soirée montagne.
Oui, alors il y aura effectivement Jean-Michel Asselin et il y a pas mal de choses au programme. Alors c'est vrai qu'on va par exemple partir, enfin les spectateurs pourront partir vers le K2, donc avec un très joli documentaire. Et moi il y a un documentaire que j'aime bien, c'est Zabardast.
Oui.
Quand on voit la bande-annonce, donc sur le site de l'association ou ailleurs, d'ailleurs, parce qu'on peut la voir aussi ailleurs.
Le K2, c'est un petit peu moins haut que l'Everest, mais à peine. Hein.
Bon, pas grand-chose. Hein. Enfin, grosso modo, c'est quand même 3,5 fois le Tinto. Hein.
C'est ça.
Bon, mais c'est surtout un petit sommet qu'on fait assez facilement. Hein. Voilà,
Bien sûr,
une promenade de santé, évidemment.
Plus de 8000 mètres.
Ouais, 8611.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et puis, c'est pas donné pour y aller. Enfin,
non.
C'est cher pas, même.
Ouais. Oh, non.
Non, rien. Je ne le ferai plus.
Ça, je la note. Hein. Non, et le film Zabardast est intéressant aussi parce que c'est un film qui croise l'himalayisme et le freeride. Alors ça, c'est...
Voilà, c'est quoi le freeride?
C'est des fous qui descendent sur la neige.
Des pentes.
Des pentes complètement folles avec des rochers partout,
avec
ils sautent.
Skis, enfin,
avec des planches de surf en général.
D'accord.
Oui, et honnêtement, quand on voit les images, on se dit, bon, moi c'est personnellement, je pourrais pas être à leur place, c'est impossible.
Mais vous êtes, vous pratiquez, Jean-Michel?
Je pratique le...
Non, mais vous avez l'air à fond dans cette histoire.
Non, moi je pratique le free sofa, moi, c'est pas pareil.
C'est pas mal également. Alors, il y aura un film sur Eric Clapton. Du coup, l'occasion était trop belle. On l'écoute et on se retrouve, Xavier Affre, pour parler de Passion Cinéma, ce festival qui ouvre ses portes demain jusqu'au 17 mars au Palais des Congrès d'Ajaccio, 20e édition, mais également, vous l'avez dit, au cinéma L'Ellipse. Qui chante Bob Marley avec I Shot the Sheriff. Et je le disais, il y aura un film programmé pour le festival Passion Cinéma.
Vous savez qu'il existe une version française qui s'appelle J'ai tué le commissaire.
Ça me fait plaisir. Et
je savais que ça vous plairait.
Notre invité Xavier Affre, vous pouvez nous dire un mot sur ce film?
On avait envie de passer ce documentaire sur Eric Clapton parce que Eric Clapton, The God, hein, c'est Dieu vivant. Et puis surtout parce qu'on aime tous dans l'association Eric Clapton, ça c'est sûr. Et puis le documentaire, vraiment un documentaire de qualité, où il se confie d'ailleurs dans ce documentaire. Finalement, je me suis rendu compte qu'Eric Clapton, on l'entend pas beaucoup, il est relativement discret quand même sur lui, sur ses... Alors on connaît ses influences,
on le voit jamais,
plein de choses.
On le voit jamais.
Et là, il se confie et il y a des moments d'émotion dans le documentaire, franchement. Et c'est vraiment un beau documentaire à découvrir. Enfin, surtout si on aime évidemment la musique, évidemment.
Oui, ça aide.
Et alors, il repassera celui-ci ou pas?
Non, c'est une projection unique. Bon, c'est un dimanche. Donc voilà, dimanche, on promène et puis à la fin, on va voir Eric Clapton.
Alors demain, il y aura évidemment les séances scolaires puisque vous, depuis le début, hein, vous travaillez avec l'éducation nationale et je crois que les séances du matin sont souvent consacrées, les séances du début d'après-midi, aux scolaires. Beaucoup de monde cette année encore?
Il va y avoir pas mal d'élèves, oui. Ça fonctionne bien. Bon, c'est une des thématiques de l'association depuis le début, enfin du moins depuis que je suis arrivé moi dans l'association, faire découvrir le cinéma aux élèves, aux enfants. Bon, alors ils le découvrent, hein, ils n'ont pas besoin forcément de nous, mais faire découvrir un certain cinéma. On essaye des fois de proposer des films avec des thématiques fortes. Ça sera le cas ici, hein, une intime conviction, par exemple, le film sur l'affaire Viguier, film sur la justice, qui va être intéressant, d'autant plus que le réalisateur sera présent. Donc je trouve que c'est bien aussi de confronter les élèves à ceux qui font le cinéma.
Inspiré par l'avocat Éric Dupond-Moretti.
Exactement, exactement. D'ailleurs, c'est son nom hein, dans le film, hein, de toute façon. Donc, il y a un seul personnage, je crois, qui est inventé, c'est le personnage joué par Marina Foïs. Voilà. Sinon, les autres, ce sont des vrais personnages.
Ouais, qui est complètement inventé et qui est un peu inspiré par la démarche du réalisateur. C'est ce que j'avais vu en interview et j'ai vu le film, figurez-vous.
Ça vous a plu ?
C'est très intéressant. Non mais pourquoi il rit ? Il pense que je prends du temps et je vais vous dire que ça ne m'a pas plu, pas du tout. Non. Je trouve que c'est très très intéressant, c'est très bien vu. Il y a une vraie prise de risque. Après, ce qu'on peut dire.
Ah, Dupond-Moretti, il fait du Dupond-Moretti dedans.
Non, moi j'adore. Il n'est pas dedans.
Il est pas dedans.
C'est Olivier Gourmet.
C'est Olivier Gourmet qui joue.
Je l'ai pas vu moi.
Voilà. Et Olivier Gourmet, il est merveilleux. C'est un acteur.
Comme souvent. Hein.
Voilà. Je trouve que c'est un acteur formidable. Et non, justement, il prend le parti de ne pas faire du Dupond-Moretti. Et c'est ça qui fonctionne bien parce que ça aurait été trop difficile. L'avocat ayant un charisme assez énorme, c'est difficile de refaire la même chose, je pense. Bon, donc, Xavier.
C'est ça. Mais ouais. Ce qui est intéressant dans le film, je crois, c'est la précision avec laquelle Antoine Rimbourg regarde un peu la justice. Parce que c'est un procès en cour d'assises et c'est très très documenté. C'est que c'est quelqu'un, alors je crois qu'il avait déjà fait plusieurs courts-métrages, notamment sur la justice. On voit que ça le passionne apparemment, hein, donc j'aurai l'occasion sans doute de lui poser la question. Mais
on sent qu'il domine le sujet vraiment.
Ah
hein,
oui, ouais. C'est très très précis. C'est pour ça que pour les élèves, je trouve que c'est intéressant parce que la justice étant au programme, notamment en classe de 4e, je trouve que vraiment on a ce qu'est un procès en cour d'assises et ce que sont les à côté aussi, les tensions, tout ça c'est très très important.
Et c'est pour cette raison qu'il est projeté à 9h pour la séance scolaire et qu'on pourra le voir à l'Ellipse à 21h.
Voilà, tout à l'heure on disait l'Ellipse, c'est la seule séance, j'allais dire, pour le public hors scolaire à l'Ellipse le jeudi soir à 21h. Le reste étant bien sûr pour les adultes au Palais des Congrès.
D'accord. Et 16h et 18h30, qu'est-ce qu'on pourra voir ?
Alors, 16h, c'est deux films dont les thématiques se rapprochent un peu finalement, même si ça paraît différent. À 16h, c'est Kabulihood. Donc j'ai eu la chance aussi de le voir un petit peu avant. C'est un très très joli film aussi sur un groupe de jeunes qui essayent de restaurer une ancienne salle de spectacle et de cinéma à Kaboul. Donc évidemment, c'est la thématique de l'art contre la barbarie, de l'art contre l'oppression. Et de l'art surtout comme moyen de résistance. Donc le film est vraiment très très intéressant. Et à 18h30,
attendez, vous allez trop vite.
Ah non, mais je croyais que
David, il a été primé plein de fois ce film.
Oui, dans plein de festivals.
Farid Joya sera là.
Exactement, exactement. Vous savez, j'ai l'habitude de faire des émissions, vos anciennes émissions de 20 minutes. C'est pour ça.
Mais non mais vous avez raison, il faut faire assez rapidement. Mais là, quand même, on peut s'arrêter un peu
les auditeurs. Il y a un des acteurs du film. Ouais. Exactement, il y a un des acteurs du film, Farid Joya, qui sera présent. Et voilà, donc c'est vraiment un témoignage en même temps sur la vie quotidienne à Kaboul, en Afghanistan, toujours malheureusement rythmé par les attentats et les talibans, hein, qui sont toujours présents et un petit peu dans l'ombre, et un petit peu moins dans l'ombre d'ailleurs maintenant, et avec, je disais, cette utilisation de l'art, du cinéma en tout cas, pour essayer de résister à l'oppression, et voilà, ça c'est un geste.
Donc visiblement, très, vous très avez aimé.
Ah oui, c'est vraiment un film. Et puis encore une fois, c'est un premier film. Donc je trouve que quand même, comme une intime conviction, quand on voit des films comme ça, maîtrisés, alors que ce sont des premiers films, c'est assez étonnant.
Des premiers longs métrages, c'est toujours étonnant. Ouais. Alors après, autre chose, c'est un film, vous dites, les sujets se rapprochent, même si on a l'impression que ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est parce qu'il est encore question, évidemment, de ces pays difficiles. Et
C'est l'Afghanistan, en fait. La thématique étant sans doute pour les deux l'Afghanistan.
Oui.
Et peut-être la société, alors l'oppression, puis la société encore très patriarcale, avec la domination des hommes et la place
plus
des femmes.
Plus dur, celui-ci. Ouais.
Celui-là est dur. Déjà, c'est un documentaire.
Ouais.
Donc il est frontal et c'est vrai que la réalisatrice en plus Sarah Mani sera là, donc ça c'est vraiment je trouve assez exceptionnel. Ce documentaire est vraiment un documentaire coup de poing. Alors je sais, c'est l'ouverture du festival, des fois on a envie de rire. Bon là malheureusement on ne rira pas, mais il faut aussi.
Mais dans le précédent peut-être un peu. On sourit ou même pas.
Un petit peu, mais ouais. c'est quand même léger. Mais il y a le côté fiction si vous voulez, même si c'est inspiré de faits réels. Là pour le coup il y a le côté brut du documentaire, mais c'est vraiment un très très beau documentaire, d'autant plus que la réalisatrice a suivi une femme qui s'appelle Katera, qui a 23 ans, et qui a été abusée par son père. Elle a eu deux enfants de son père. La justice, d'ailleurs, lui a demandé de garder les enfants comme preuve. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça peut représenter quand même. Et elle a décidé de briser le tabou du silence et d'en parler à la télé à Kaboul. Et évidemment, ça a été un choc, puisque ça a dû renvoyer quelque chose à la société afghane. Et le film l'a suivi pendant 2-3 ans. Suit cette femme qui a 23 ans, elle est époustouflante. C'est une femme courage. C'est une femme qui a décidé de mener un peu ce combat. Et voilà. Et c'est filmé avec beaucoup de pudeur. C'est ça que j'aime bien. C'est pas un documentaire rentre dedans. C'est pas la Michael Moore, par exemple. C'est vraiment un documentaire très attentif qui suit cette femme, qui l'interroge, qui capte des choses assez belles aussi, des moments tragiques, des moments difficiles parce que c'est pas facile pour elle. Elle est confrontée à plein de choses, au regard des hommes, au regard de ses frères, son père, ses oncles qui la menacent. Enfin, il y a plein de choses. Et vraiment, c'est un film d'une richesse incroyable.
Alors, le premier, comment se sort-on d'un pays en souffrance, où la parole n'est pas libre, vient par l'art et le cinéma. Et le second, A Thousand Girls Like Me, comment se sort-on d'une situation terrible, excessivement difficile, lorsqu'on est abusé par son père, par les médias, par la télévision, par la parole, quoi, encore une fois. Et on pourra le voir à 18h30, et ce sera donc toujours au Palais des Congrès.
Ça a l'air gay comme festival.
Exactement. C'est bon.
C'est pour ça qu'on prend des jours de congé.
Oui, exactement.
Non, il faut, de toute façon, je pense que c'est un vieux débat. Ça,
non, hein, il vous taquine parce qu'il est très intéressé.
C'est du deuxième degré.
Ouais. Non, mais j'avais bien compris. Mais en même temps, c'est vrai de le préciser parce que on nous le reproche pas, mais on nous le dit souvent. Bon, votre festival, des fois, c'est un peu difficile.
Mais il y en a d'autres, des festivals où on rit. Voilà, chacun, non?
C'est ça. Puis je trouve que c'est bien de se confronter un peu. C'est parce que bon, on est dans une période, vous avez vu, où il y a pas mal de contestations et sans le moins de monde la minimiser. Mais c'est bien aussi de voir qu'ailleurs, il y a aussi, et peut-être même des fois, il y a des convergences, sur le niveau des luttes, qu'il existe des choses horribles et des situations vraiment mais tragiques. Quand je dis tragique, le mot est faible. Mais j'avais bien compris, je sais que c'est du second degré.
Alors, le vendredi, à 9h du matin, il y aura une séance scolaire avec une avant-première. Je pose toujours cette question, et c'est sûr que les organisateurs ont toujours une réponse un peu délicate. Peut-on se greffer à une séance scolaire? C'est toujours compliqué.
Oui, alors non, c'est possible. Ouais. Enfin, c'est dans
s'il
la
reste
limite
de la
des
place.
Places. Voilà, c'est ça. Et après, mais les séances scolaires, là aussi, c'est pour y avoir de temps en temps assisté, soit en emmenant des classes. C'est aussi unique, parce que la réaction des enfants aux projections, c'est assez étonnant. On est des fois surpris de la façon dont les enfants réagissent. Donc, ça peut être intéressant aussi. Après, c'est sûr que ça reste une séance d'abord scolaire, et après, éventuellement, auquel on peut se greffer.
Bon, là, c'est un film d'animation.
C'est un film d'animation, oui. Amir et Mina, les aventures du tapis volant. Voilà.
Bon, c'est pour quel âge?
On avait noté que c'était à partir des maternelles, à partir de 4 ans.
Bon, d'accord.
Moi, j'y crois toujours au tapis volant.
Alors, si vous avez raté la séance de 21h le soir de l'ouverture, eh bien, vous pourrez revoir Une intime conviction à 9h15 le vendredi, à 14h Cybelle, et puis une autre avant-première à 16h, The Report. Autre avant-première, alors là, vendredi, c'est la folie, à 18h30, avec la présence du comédien Tom Mercier.
Ah, vous êtes déjà au courant, c'est exceptionnel. Je vois que ça ne change pas. Je suis parti quelques temps, mais je vois que c'est toujours même. Oui, effectivement, on a appris il y a un ou deux jours la venue du comédien pour un film. Alors là, écoutez, honnêtement, je sais qu'on a l'habitude de dire que tous les films sont exceptionnels, mais celui-là, synonyme de l'Israélien Nadav Lapid, est un film mais extraordinaire.
Non, mais il a eu l'Ours d'Or à Berlin quand même.
Mais c'est pas parce qu'il aurait eu l'Ours d'Or, on lui aurait donné rien du tout.
Non,
vous voyez ce que je veux dire, vous auriez dit la même chose, honnêtement.
Bien sûr, mais non, n'empêche que voilà, c'est un film qui s'est fait remarquer.
Ah oui, oui, puis je pense que c'est un film qui a divisé, qui va diviser, donc ça j'aime bien hein, quand ça divise. Et puis c'est un film qui a été tourné à Paris. Le regard que porte cet Israélien qui a une quarantaine d'années sur Paris déjà est assez étonnant. C'est-à-dire que...
Non mais c'est drôle, pardon, parce que quand on pense que bon nombre de Parisiens israélites partent à Israël ou sont partis à Israël pour essayer de trouver un réconfort, une vie meilleure. Et là, en fait, le réalisateur s'est amusé à imaginer le voyage inverse.
Mais il y en a qui reviennent,
ouais. C'est ça.
En plus.
Mais c'est que en plus, c'est tiré de sa propre expérience, parce que lui-même, dans les années 2000, avait fait ce choix de quitter Israël. D'ailleurs, dans le film, on ne sait pas vraiment, on a quelques pistes pour pourquoi le Yoav, le héros du film, est parti. Ouais. C'est pas si déterminé que ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut échapper à ce pays qui sans doute il adore mais qu'il déteste en même temps, hein, il explique ça aussi, et qui veut en plus ne plus parler hébreu du tout mais parler français, qui veut essayer de s'intégrer à un autre pays. Et le réalisateur accouche du coup d'une réflexion sur l'identité qui est passionnante. Qu'est-ce que c'est être israélien dans un pays étranger, mais qu'est-ce que c'est que avoir sa propre identité dans un pays qui n'est pas le sien. Donc c'est beaucoup plus général que ça. C'est aussi une critique en creux quand même, évidemment, de, alors peut-être pas de la politique israélienne, mais de ce que peut être Israël. Mais c'est pas une critique, j'allais dire, facile. Voilà, on parle pas du conflit hein, palestinien, par exemple, dans le film. Et pourtant, il y a un regard qui est acerbe et assez critique. Voilà, bon, le réalisateur vit quand même aujourd'hui à Tel Aviv, vous voyez. Donc, une relation avec ce pays particulier, surtout quand on est israélien, c'est-à-dire d'amour, de haine, de pression peut-être très forte au niveau de l'identité, hein, évidemment. Et ça, il le montre bien dans son film, qui est un film qui regorge aussi de cinéma, au niveau des plans, au niveau du cadrage, au niveau du montage. Voilà, c'est un film qui bouscule aussi. C'est un film intrigant, faut pas se cacher. Hein, c'est pas un film forcément facile d'accès. Il faut rentrer dedans.
Académique,
mais quand on rentre dedans, voilà, c'est les cahiers du cinéma ont fait la couverture là-dessus, hein, en disant qu'ils bousculent le cinéma français. Vous imaginez, bousculer.
Ils ont
le
pas
cinéma
un peu
français.
Fait leur couverture carrément sur Tom Mercier.
Ah ben oui, vous avez vu cette couverture.
Oui,
ou pas,
oui.
À quoi elle vous fait penser? C'est à qui elle vous fait penser, cette couverture?
À vous, Xavier. Non, je plaisante.
Bon, c'est bon, je vais peut-être vous laisser, là.
Non.
Non, pourquoi pas.
Pas du tout.
On voit l'acteur avec un manteau jaune. On pense à Marlon Brando. Moi, j'y ai vu Brando dans Le Dernier Tango à Paris, même si ça n'a rien à voir, bien sûr. Mais je ne sais pas si c'est une référence ou pas, mais c'est beau.
Non, arrêtez, voilà. Ne me parlez pas du Dernier Tango à Paris. Il y a un livre qui vient de sortir, affreux, sur ce destin terrible.
Non, non, alors, de Maria Schneider.
De Maria Schneider, bah oui, non, non, laissons tomber.
C'est une évidence.
Tom Mercier, un mot sur ce jeune acteur?
Bah écoutez, je ne le connaissais absolument pas.
Mais moi non plus, c'est pour ça que je vous interroge.
Visiblement, j'ai vu qu'il a fait pas mal de théâtre.
Ouais.
Et la prestation qu'il livre, elle est époustouflante, parce que c'est un rôle difficile aussi. Alors il se met à nu au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, et il y a des scènes, il arrive à exprimer quelque chose avec en plus il parle français mais avec cet accent comme ça très joli et très beau, mais qui participe au film. Vraiment, il est exceptionnel.
The Report, le film qu'on verra juste avant à 16h, puisque celui-ci sera joué à 18h30.
Alors celui-là, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas vu.
D'accord. Voilà,
mais effectivement, c'est un film aussi intéressant qui a été récompensé dans pas mal de...
Il faut savoir se taire, hein,
de festivals.
Aussi, quand on...
Mais bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Si belle à 14h.
Alors, Si belle, deuxième film que je n'ai pas vu. Non, et voilà, les autres, je les ai vus. Non, en tout cas, c'est aussi un film dont on parle parce qu'il vient de sortir.
Ouais.
Et je lisais tout à l'heure, avant de
l'émission,
la presse. Voilà, ouais. Et on en parle. Et vraiment, ouais. Là aussi, encore une fois, un film qui a été récompensé au cinéma méditerranéen de Montpellier, en plus.
Voilà. Bon. Donc, alors, et puis, il y a évidemment un film avec Catherine Deneuve à l'affiche.
Oui.
Souvenez-vous, Xavier Affre, toutes ces heures où nous avons parlé de Catherine Deneuve.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Une semaine de cinéma sans Catherine Deneuve n'est pas une semaine de cinéma.
Non mais encore aujourd'hui, encore en 2019. Non mais c'est incroyable. Cette actrice, elle est absolument incroyable. Elle suscite encore le désir chez les réalisateurs, chez les jeunes réalisateurs. Et elle trouve sa place à chaque fois dans un registre immense. Voilà, elle a un éventail de rôles qui est subjugant. Enfin bon, je sais pas, elle est incroyable quoi.
C'est vrai, la jeune génération, alors, mais même l'ancienne génération, parce qu'il n'y a pas très longtemps, elle a tourné dans un film d'André Téchiné, par exemple, encore. Bon, elle avait déjà joué avec André Téchiné, évidemment, mais il y a beaucoup de jeunes réalisateurs.
Allez, citer un film, Jean-Michel Fraticelli.
Huit femmes.
De Téchiné, pas du tout.
Ah non, de Catherine, avec Catherine Deneuve.
Ça, c'est Ozon, ouais.
Avec Catherine Deneuve.
Avec Téchiné.
Oui. Oh, j'en ai aucune idée. Pas du tout cinéphile, en fait.
J'adore le piéger parce qu'il a une culture énorme, mais il est nul en cinéma. Alors, ça me fait beaucoup.
C'est terrible.
Bon.
Et vous en citez un ? Vous pouvez en citer un, bien sûr.
Moi, j'en ai. Non, aucun. Alors, attendez, oh, oui. Aidez-moi.
Alors, là, bah, vraiment.
Bah, alors, en tout cas, le dernier, moi, que j'ai vu, c'était L'homme qu'on aimait trop.
Vous savez, sur
le.
Magnifique.
Ah oui, c'est vrai, un film qui parle de moi en plus, vous imaginez, j'aurais dû y penser.
Magnifique, bien vu. Bon, là, c'est La dernière folie de Claire Darling.
C'est ça, de Julie Bertuccelli.
Ouais.
Vous voulez que j'en dise un petit quelque chose ?
Oui, s'il vous plaît.
Bah, c'est encore un rôle décalé quand même hein, pour Catherine Deneuve. Je trouve que c'est ça qui est fou, c'est que avec la carrière qu'elle a, elle pourrait dire bon, je m'en fous un peu. Et elle prend des paris et c'est des rôles souvent risqués quand même parce que c'est là l'histoire d'une femme qui pense que elle va vivre son dernier jour et qui décide de tout vendre dans son appartement. Mais évidemment, les objets lui rappellent un peu pas mal de souvenirs. Elle est étonnante. Alors c'est vrai que peut-être il y a des scènes comment dire, c'est un peu étonnant. On voit dans la bande-annonce, elle fait de l'auto des voitures. Auto-tamponneuse. Il y a des trucs un peu étranges, mais il faut vraiment le placer dans le film. Hein. Quand on le voit comme ça tout seul, on se dit c'est n'importe quoi. Mais quand on voit dans le film, il y a une cohérence. Donc, c'est un peu des rôles où elle tutoie la folie. Et je trouve qu'elle n'a jamais été aussi brillante, Catherine Deneuve, que quand elle avait des rôles où elle tutoyait la folie.
Oui. Donc ça, ce sera le vendredi, toujours pour le festival Passion Cinéma. Et évidemment, à 21h, vous pourrez découvrir ce film au Palais des Congrès. Allez, vous avez choisi l'année 2015. Nous allons expliquer pourquoi.
Toc, toc. C'est son année.
Ben oui, pourquoi ?
Ah, pourquoi 2015 ? Ben c'est l'année, non, c'est l'année tout simplement de l'obtention du CAPES, voilà, c'est tout.
Non mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple d'obtenir son CAPES. C'est pas simple d'épouser cette carrière-là aujourd'hui.
Ah, c'est pas non plus. Relativisons. Ce n'est pas non plus l'enfer, hein, quand même. Hein, de réussir, ça se fait.
Non, ça se fait encore. Mais on sent bien que voilà, être enseignant aujourd'hui, c'est pas nager dans le bonheur. On sent qu'il y a souvent, ben voilà, des revendications qui ne sont pas, je ne sais pas moi, assouvies. Il y a des changements. Là, il y a eu un gros changement puisque cette année, les élèves qui sont rentrés en seconde, eh bien, c'est les élèves de la réforme.
Les fameuses réformes. Alors, vous savez, les réformes passent. Nous, on reste, hein, ça, c'est sûr.
On a l'impression que l'histoire géo, puisque c'était un CAPES d'histoire géo, est un peu laissée pour compte de plus en plus.
Ah ben je suis content de vous l'entendre dire, je n'arrête pas de le dire. Alors je le dis à la télé, je le dis ici à la radio, ben évidemment, je ne peux que constater. Alors il me semble que moi, quand je faisais de l'histoire il y a très 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 longtemps, quand j'étais au collège, on avait déjà 1h ou 1h30 de plus, vous imaginez, par semaine.
Oui.
Là, on a perdu déjà dans les horaires. Et puis, oui, je ne sais pas pourquoi. C'est plus peut-être une épreuve fondamentale dans les examens, je ne sais pas. Alors que bon, quand même, la culture générale, ça me paraît. Alors, on dit souvent connaître son passé pour mieux construire son présent.
Non, mais non seulement, Xavier, il y a moins d'heures d'enseignement, mais j'ai l'impression que vous balayez une période plus large. Et enfin, je vois avec mes enfants. Enfin,
tous les ans, la période s'agrandit d'un an.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais Jean-Michel, vous vous rendez pas compte, vous n'avez pas d'enfants petits au collège. Mais je vous assure, le programme est hallucinant.
Non, ça, c'est vrai.
Enfin,
on fait beaucoup. En fait, le problème, c'est que les programmes sont toujours chargés. Ça, c'est sûr. Y a des choses positives hein, dans les différentes réformes. Si on prend des bribes un peu par-ci par-là, puis on a quand même pas mal de modalités hein, pour appliquer les programmes. Mais c'est vrai que je trouve que des fois, c'est du trop plein et c'est un peu la quantité qui l'emporte sur la qualité. On survole beaucoup.
Et du coup, on survole énormément. Et
oui. Oui. Bon, après, c'est vrai qu'il faut dire aussi, enfin, à mon sens, hein, que on peut très bien survoler un peu au collège. Rentrer dans un peu, peut-être un peu plus profond au lycée, à l'université. Ouais. Bon, pourquoi pas, mais après, c'est vrai que je sais pas, il y a des choses qui vont pas, et puis c'est surtout, je pense, à mon avis, sur la qualité de l'enseignement, c'est pas évident. C'est clair que de toute façon, c'est un métier qui est difficile et qui restera difficile.
Vous projetez des films à vos élèves ?
Alors, depuis quelques temps, cette année, je l'ai fait avec les troisièmes. J'ai décidé, avec les classes que j'ai de troisième, pour les leçons d'histoire, de leur montrer des scènes. Qu'on fait en histoire des arts. Par exemple, bon, Le Dictateur, c'est un classique, mais des extraits avec de Charlie Shoah, Chaplin, de Claude Lanzmann. Voilà, oui. ça peut être aussi Les Sentiers de la Gloire, l'analyse de l'assaut dans les tranchées. Oh,
qu'est-ce que j'aurais aimé vous avoir comme prof.
Ah bah, je ne sais pas.
Trop tard.
Vous étiez déterminé à enseigner ou il y a eu des doutes avec cette passion du cinéma, avec cette introspection dans le journalisme? Vous vous êtes posé des questions, Xavier?
Alors, c'est sûr que j'ai eu envie de plutôt faire de l'histoire, ça c'est mon terminal, même si je voulais même faire autre chose, je voulais faire de la génétique, vous voyez, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais l'enseignement, oui, ça c'est quelque chose qui me plaisait, j'en avais envie. Après, avec le recul, bon, je regrette, on peut toujours regretter des choses, mais je me serais bien lancé dans des études de cinéma, ça c'est sûr. Mais bon, pas si mes parents à l'époque, si je leur avais dit je veux faire cinéma, je ne suis pas sûr que, voilà. Parce que bon, c'est pas évident quand même, hein. Il faut dire que y a beaucoup d'étudiants. Est-ce que ça aboutit à quelque chose de concret qui permet de vivre? C'est pas si simple.
Comment vous palliez le fait de ne pas avoir étudié le cinéma à l'université? Comment vous nourrissez votre passion, hormis le fait d'aller voir des films?
Ben, je vais faire une réponse, j'allais dire, de base, hein. Je lis pas mal, il faut être un peu curieux, donc tout ce qui est revue, tout ce qui est même des revues sur l'analyse, hein, oui, de scènes, etc. Puis j'avais fait une maîtrise en histoire, j'avais travaillé un peu sur les films sur la Seconde Guerre mondiale, donc j'avais lu aussi des films là-dessus, et puis on apprend tous les jours, hein, de toute façon, c'est quelque chose d'assez riche, le cinéma. Il y a tellement de possibilités, tellement de choses à voir entre les mouvements de caméra, le scénario, bon, l'écriture, entre l'image.
Vous savez que notre réalisateur corse, Gabriel Le Baumin, est en train de travailler sur un biopic, alors j'aime pas ce terme, mais bon, sur le général de Gaulle.
Ça, c'est fascinant. C'est doit être quelque chose d'extrêmement difficile, parce que c'est pas simple de cerner la personnalité du général de Gaulle.
Vous le saviez, hein?
Non, je ne savais pas.
Ah, je vous l'apprends.
Oui. Je suis ravi. Je ne sais pas, il va être obligé de le prendre sous un angle précis, parce que général de Gaulle, ça embrasse tellement
de choses. Mais on n'en sait pas plus, malheureusement, on n'en sait pas plus, mais on sait que c'est un spécialiste du cinéma d'histoire, Gabriel Le Baumin. Et donc, on attend avec impatience le résultat. Donc, 2015, pendant que vous obtenez ce CAPES interne d'histoire et géographie, il se passe plein de choses et pas forcément des choses très joyeuses, Jean-Michel.
Pas joyeuses du tout. C'est, puisqu'on parle de cinéma, on n'en est pas très loin, puisque c'est la culture qui était attaquée et la liberté d'expression également écoutée.
Mercredi 7 janvier 2015, ces journalistes se réfugient sur le toit de leur bâtiment après avoir entendu des coups de feu dans les bureaux voisins, ceux de Charlie Hebdo. Un peu plus tôt, deux hommes sortent de leur Citroën noir puis pénètrent dans l'immeuble. Après avoir tué une personne au rez-de-chaussée, ils montent au deuxième étage dans la salle de conférence de rédaction du journal. Ils tuent le rédacteur en chef, Charb, et plusieurs figures de Charlie Hebdo. Une fusillade éclate ensuite entre les deux hommes et la première voiture de police arrivée sur les lieux. L'un des assaillants tire à bout portant sur un policier et le tue. En tout ce jour-là, 12 personnes perdent la vie. Les frères Kouachi, identifiés grâce à leur carte d'identité laissée dans leur voiture, deviennent les hommes les plus recherchés de France. Le lendemain matin à Montrouge, en banlieue parisienne, un conducteur ouvre le feu. Il tue une jeune policière municipale de 27 ans. Les autorités annoncent que les suspects de l'attentat de Charlie Hebdo ont braqué une station essence à 100 km au nord de Paris. Plus de 88 000 agents sont déployés pour les traquer. Le jour suivant, le 9 janvier, les frères Kouachi abandonnent une voiture volée à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne. Poursuivis par la police, ils se retranchent dans une imprimerie. À l'intérieur se trouve le gérant, ainsi qu'un employé qui a réussi à se cacher. Vers 13 h, les autorités sont alertées par une autre prise d'otage. Celle-ci est menée par le tueur de Montrouge, Hamedi Koulibaly, dans un hypercacher porte de Vincennes à l'est de Paris. L'homme de 32 ans tue 4 personnes et prend les autres en otage. Il menace de tuer toutes les personnes présentes si les frères Kouachi sont abattus. À 17h, Saïd et Chérif Kouachi quittent l'imprimerie et ouvrent le feu. Ils sont tués par les hommes du GIGN. Quelques minutes plus tard, c'est Hamedi Koulibaly qui finit par être abattu après un assaut du raid. Le dimanche 11 janvier, près de 4 millions de personnes, ainsi que 50 chefs d'État, défilent dans les rues du pays avec ce slogan « Je suis Charlie ».
Étiez-vous Charlie, Xavier?
Ah, c'est une bonne question. En étant honnête, bien sûr, par rapport à ce qui s'était passé, oui. Après, lecteur assidu, puisqu'il a fallu expliquer ça aux élèves, d'ailleurs. Ça, je me rappelle que ça a été des moments d'intenses discussions. Je n'étais pas lecteur assidu. En fait, hein, comme tout le monde, je regardais les unes. Certaines unes me choquaient aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc,
est-ce que vous avez été téléspectateur assidu? Moi, j'ai souvenir.
Ah oui, oui,
je n'arrivais pas à me passer à décoller de la télévision.
On voulait savoir ce qui se passait.
Ouais. Ah non, mais c'est sûr que ça a été des moments. Ça a été des moments à la fois intenses, tragiques. C'est vrai que mais c'était des moments intéressants maintenant à utiliser devant les élèves parce qu'on peut leur expliquer plein de choses, même sur les médias, sur la façon de couvrir un événement et sur la façon même peut-être. Je dis pas de faire peur, mais c'est vrai que bon, vous savez, c'est les chaînes en continu, etc. Tout ce
phénomène,
parce que les élèves sont très sensibles à ça, hein, plus que nous-mêmes peut-être. Donc oui, mais effectivement, je suis Charlie. Je me rappelle cette grande manifestation à Ajaccio auquel j'avais participé.
Aussi, oui. Hein. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit je suis Charlie, mais pour défendre une certaine liberté de la presse plutôt que pour défendre le journal en lui-même que beaucoup de gens n'appréciaient pas.
C'est ça que moi je me suis tenu à expliquer aux élèves, c'est qu'on a le droit en France de ne pas apprécier un dessin, on a le droit de le trouver mauvais, on a le droit de dire qu'un dessin peut-être dépasse une certaine limite, peu importe. Après, il est évident qu'une fois qu'on a dit ça, la liberté d'expression fait qu'on a le droit de faire un dessin aussi qui peut gêner pas mal de monde. Et à partir de là, oui, c'est quelque chose, la liberté d'expression, c'est quelque chose auquel on est tous attachés, enfin du moins j'espère, et qu'il faut préserver. Ça, c'est une évidence. Donc, j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que je suis Charlie sans forcément avoir été Charlie Hebdo. Voilà,
c'est un peu ce que je voulais vous dire. Et vous... En plus, cette année-là, c'était terrible parce que en janvier, il y a eu Charlie Hebdo. En mars, il y a eu le musée du Bardo à Tunis. En juillet, l'attentat du Thalys avec ce terroriste qui avait été neutralisé par des militaires américains.
Il y a eu un film, d'ailleurs, Xavier.
Tout à fait, un film.
Oui, un mauvais film.
Et le 13 novembre, c'était le Bataclan, évidemment.
Et se servir, vous parliez des élèves, vous disiez c'est intéressant de travailler là-dessus pour expliquer aux élèves souvent l'inexplicable, mais aussi par rapport à la presse, c'est ça que vous vouliez dire, comme ils sont tout le temps rivés sur des écrans, développer leur sens critique.
Eh ben oui, puis on l'a encore fait cette année avec ce qui s'est passé au niveau du, vous savez, le mouvement des Gilets jaunes. C'est quelque chose qui revenait régulièrement chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont été confrontés à des images qu'ils ont vu un peu partout, que ce soit sur le net, que ce soit les chaînes d'infos, etc. Et c'est vrai que des fois, c'est peut-être le rôle du professeur d'histoire, géographie et d'éducation, d'enseignement moral et civique.
Oui, c'est vrai, il y a ça.
Voilà. mais c'est le rôle, je crois, de chaque enseignant d'expliquer aux élèves que voilà, quand on entend « Ah, je l'ai vu à la télé, donc c'est vrai », bon, oui.
Vous avez combien d'heures pour les enfants d'enseignement moral et civique, justement?
Il n'y a pas d'heures précises.
C'est au professeur d'histoire et géographie.
On a 3 heures par semaine avec des quatrièmes et 3h30 avec des troisièmes, en ce qui me concerne, et on répartit un peu comme bon nous semble.
Cinéma, à présent.
Ah oui, cinéma, ça va vous dire quelque chose, ça.
Quelque chose s'est réveillé. Plus nous arrêter. J'achèverai ce que vous avez commencé.
On raconte toutes sortes d'histoires.
Tout est là. Côté obscur.
Mais ça vous dit quoi, Xavier, ça?
Ah, ça me dit Star Wars, non, c'est pas ça?
Bah oui.
Alors, est-ce qu'un
critique
cinéma apprécie ce genre de grand Barnum?
Ah là, c'est la partie où je vais me faire des amis. Non, je suis comme tout le monde, oui, j'ai été évidemment, pas scotché, mais il y a tellement eu de publicité autour de l'épisode 7, en l'occurrence c'était celui-là, que j'ai fait comme tout le monde, je suis allé le voir, j'attendais peut-être quelque chose quand même si je me dis quand on met
tant de
temps avant de...
Est-ce qu'il y a eu de bonnes réalisations d'épisodes Star Wars? Selon vous?
La trilogie classique,
l'épisode
4, 5, 6. À mon avis, hein, mais c'est pour ça que je vais pas me faire des amis, il y a déjà des points faibles, hein, sans doute, dedans. Non, mais c'est sûr. Je veux dire, on les regarde avec les yeux de l'enfance, donc avec beaucoup d'attachement. Mais non, j'aime pas trop la trilogie 1, 2, 3. L'épisode 7 m'a déçu. Je trouvais que c'était le 4, le remake du 4.
Enfin, pour un type qui aime pas, il les a tous vus quand même.
Mais ils voient tout. Ils sont cinéphages, les critiques cinéma. Ils ne sont pas que cinéphiles. Ouais.
Par contre, j'ai bien aimé le 8. Vous voyez, j'ai été assez surpris.
Bon, là, vous parlez chinois parce que moi, j'ai été largué au.
Non, sur les chiffres arabes.
Au 3. Je ne suis plus dans le coup. Autre avant-première, toujours à Passion Cinéma, c'est Sunset. Et ce sera à 21h le dimanche, me semble-t-il.
Oui, c'est le film de... Alors, ce n'est pas facile de trouver un film de clôture. Hein, oui. Je dois dire que...
On vous excuse, allez.
Voilà. Non, mais c'est un film... moi, je suis content qu'on puisse le passer. C'est le film de Laszlo Nemes qui avait surpris tout le monde avec un premier film qui s'appelait Le Fils de Saul. Qui était incroyable. Et là, c'est un film totalement différent. Ça semble même un peu plus hollywoodien. C'est en costume. Ça se passe, on est en 1913, 1914, dans l'Empire austro-hongrois. Et là aussi, c'est un film dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps à la Mostra de Venise quand il a été projeté. Voilà, donc, mais évidemment, celui-là, je n'ai pas pu voir parce que vous imaginez bien que c'est un film qui est tellement attendu que je pense que peu de personnes pour l'instant l'ont vu, à part peut-être à Paris. Mais je suis curieux de savoir ce qu'a pu faire en deuxième film le réalisateur du Fils de Saul, évidemment.
Par contre, je suis extrêmement déçue, uniquement deux films asiatiques. Ça m'étonne de votre part. Hein. Vous avez peu d'influence sur le festival.
J'ai essayé de pousser, mais non. Bon, attendez, mais deux films, mais quel film ? Asako 1 et 2, c'est extraordinaire.
Ouais.
Une romance magnifique comme seuls les Japonais peuvent le faire. Il y a la délicatesse,
l'affiche est sublime déjà.
Ah oui. Ouais. Il y a de l'onirisme. Voilà. Alors je précise parce que j'ai vu la bande annonce circuler un peu partout de ce film. Il y a la bande dans la bande annonce. Il y a du Juliette Armanet que j'aime bien d'ailleurs. Mais il y en a pas dans le film. Hein, je précise parce que voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça paraît très bien trouvé, mais il y en a pas.
Moi je l'ai programmé, voilà. Juliette Armanet dans cette émission puisqu'on terminera avec elle. Tout en sachant en effet que même si c'est dans la bande-annonce, on ne l'écoute pas dans le film. Évidemment, ce serait incroyable.
Non, c'est pas grave, mais c'est sympa.
Ce serait incroyable pour ce film.
Une question pour revenir un petit peu en corollaire de Star Wars. Est-ce que, Xavier, est-ce qu'il existe dans le monde un festival de blockbusters ?
Bien sûr.
Ça, c'est une très bonne question.
Bien sûr, moi je vous le dis.
Ça doit exister.
Mais bien sûr, il y a des festivals de tout, de séries B, de films érotiques. De...
il faut qu'elle voit tout.
Les éternels, un mot.
Alors, Les Éternels, c'est le nouveau film de Jiazhenke qui est un de mes réalisateurs préférés. Qui est sans doute l'un des meilleurs réalisateurs tout simplement dans le monde actuellement. J'ai dit l'un, l'un. Écoutez, il y a de la romance, il y a de tout, il y a des changements de registre dans le cinéma. On passe d'un western à un polar à la romance, et puis c'est surtout à travers l'histoire d'une femme. 20 ans de l'histoire de la Chine. Alors, vous savez, quand la Chine s'éveillera, elle s'est éveillée, mais enfin, évidemment, le réveil a été rude, évidemment, parce qu'on est passé du communisme au capitalisme. Donc, voilà. Et ça, le film le montre très bien.
Bon, en 2001, vous voulez le pitch ? J'adore. En 2001, la jeune Kiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Kiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à 5 ans de prison à sa sortie. Kiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Donc, il y a tout. L'aventure, l'amour, la société, la politique, la violence. Donc, grand film à ne pas manquer, Les Éternels.
Et puis surtout, le son de mise en scène. Quand vous regardez le film, c'est un plasticien. Il est extraordinaire. Je crois que s'il n'était pas cinéaste, il aurait été artiste. Je ne sais pas quoi, mais voilà.
Bon. Il y aura du théâtre également avec le Théâtre Roy et Paul Grenier, n'oublions pas. Et puis le ciné-goûter, ce sera le samedi 16 mars à partir de 14h, le plaisir de la fête pour toute la famille. Le théâtre, ce sera le samedi également, c'est à 14h, c'est ça ?
C'est ça. C'est dans le cadre du ciné-goûter d'ailleurs. Et il y a un film que vous avez déjà vu, j'imagine, avec vos enfants. Moi je l'ai vu, j'étais tout petit. Charlie, mon héros. Vous connaissez ça, non, de Don Bluth, 1989?
Pas du tout.
Non, vous connaissez pas.
Mes enfants sont nés beaucoup plus tard, mais il est fou, ce Xavier.
Mais vous allez peut-être vous.
Elle aussi, elle est née beaucoup plus tard.
Mon enfant, vous voulez dire.
Gouja.
Heureusement que c'est la fin de l'émission, je vous le dis, parce que franchement. Mais non, mais enfin, mes enfants, 89, j'étais à peine née.
Non, vous leur avez montré après. Vous savez, Xavier veut vivre après.
Xavier, vous l'entraînez dans les affres de la vieillesse.
Bon, voilà, évidemment.
Sans jeu de mots, évidemment.
N'oublions pas, et ça c'est important, la soirée montagne, le samedi 16 mars à partir de 18h30, 4 films et buffet, et puis le dimanche à Marignane avec le ciné montagne également. On a tout dit, je crois, ou presque.
Je crois qu'on a tout dit. Il ne reste plus qu'à nous coucher maintenant.
On va écouter une pub.
Ah oui, essayez de deviner de quoi ça parle. Il y a une grande table avec plein de victuailles dessus.
Et nous sommes en 2015,
c'est
évidemment.
Très beau, en 2015.
Combien de personnes se sont assises à cette table ? Combien d'histoires ont commencé ici ? Chaque repas a son histoire. Chaque histoire est un souvenir. Cette table a vu naître des guerres, des histoires d'amour, des histoires tout court. Roi, reine, misérable, poète, amant, guerrier, avocat, hors-la-loi, qui que vous soyez, prenez place et dînons tous ensemble. Parlons, pleurons, rions. Et quand le repas touchera à sa fin, nous dirons « Je n'oublierai jamais ce moment ». L'âme de la table.
C'est beau, hein ? Elle est belle.
Mais elle est trop belle.
Les images sont magnifiques.
Allez, juste préciser, Xavier Affre.
C'est de l'art aussi,
que,
la
mais
publicité.
Oui, que
surtout
pour le...
à ce niveau-là.
Oui, taisez-vous maintenant. Que pour le ciné goûté, il y aura un Miyazaki que j'ai jamais vu. Oui. Le château de Cagliostro. Et puis, vous l'avez dit, les crapauds sans aise, pardon, avec le théâtre Roi, la petite fabrique de nuages et Charlie, mon héros.
Mon héros.
On vous embrasse bien fort, Xavier Affre.
Et vous êtes toujours mon héroïne.
Oh, mais
je termine là-dessus.
Sniff. Oh, pardon.
Ouais. Eh oui. Eh ben moi, c'est mon Robert Redford à moi.
Bah oui, bah évidemment.
Jean-Michel, je vous trouverai une ressemblance avec un grand acteur. Il faut que
oui,
je
Alain de loin, comme
ça me vient pas comme
inconnus,
ça.
Oui.
Ça me vient pas. De grosses bises, Xavier Affre.
Merci
à bientôt, Xavier.
On rappelle que ça démarre demain et c'est jusqu'au 17 mars. Festival Passion Cinéma à Ajaccio.